eh bien, soit comme tu le veux, des paroles vivantes, et qu'elles fassent notre vie. Au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, je souhaite, pour ceux qui se souviennent, la dernière fois j'avais parlé du qui perd gagne et de l'Évangile, parce que je réfléchis sur une question, c'est quels sont les principes du royaume de Dieu. Vous savez, Jésus parlait du royaume de Dieu. J'ai lu à la fin de l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, tout à la fin, c'est les paroles d'envoi, la dernière parole de Jésus avant qu'il ne parte pour ses disciples. Jésus s'approcha d'eux, leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour. » Jusqu'à la fin du monde. Et j'ai réfléchi, ça fait longtemps que ça m'a frappé, parce qu'on a compris qu'il faut aller faire des disciples, il faut évangéliser. On a compris qu'il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis Jésus dit aussi, il faut leur enseigner à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Or, ça, ce n'est pas si évident que ça. Moi, je remarque que dans bien des endroits, je vise personne en particulier, ni même cette église-ci en particulier, mais on dit les gens sont convertis, mais ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas devenus des disciples. On a des gens à problème dans l'église, c'est normal. On est tous des gens à problème. Et puis, c'est pour ça, l'église, ça servira à quoi si les gens à problème peuvent pas venir. Venir, si possible, pour qu'à un moment donné, nos problèmes soient guéris. Et pas que ce soit des problèmes perpétuels qui s'imposent à tout le monde. Et Jésus dit, il faut aussi leur enseigner à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas la manière dont nous abordons l'Évangile d'habitude. L'Évangile, ça ne consiste pas à obéir à des prescriptions. Et quand on l'envisage comme ça, on tombe dans ce qu'on appelle le légalisme. Les chrétiens évangéliques connaissent ça parce que c'est un piège dans lequel certains tombent quelquefois. Le légalisme, c'est-à-dire avoir des lois et des règles. Quand on est un bon chrétien, on fait ci, on fait ça, et on fait pas ci, et on fait pas ça. Voilà, des règles, des prescriptions. Alors que l'évangile, tel qu'on essaye de l'exprimer, tel que qui nous est donné dans la Bible, c'est pas ça, c'est plus profond. C'est justement être libéré. Pas être libéré pour faire n'importe quoi. Pas la glorieuse liberté des enfants de Dieu, comme on l'a chanté, pour que j'ai enfin la liberté de faire ce que je veux, comme je veux, selon mon envie et mon désir et ma grande prétention. Non, pour qu'on soit libre de faire le bien. Mais c'est une liberté intérieure, c'est une liberté du cœur. Ce n'est pas des prescriptions. Dites à quelqu'un qui est un menteur, dit, tu ne dois pas mentir. Sans doute, il le sait déjà. Il le fait quand même. Enfin bref, on pourrait prendre... Il faut qu'on soit libéré, mais n'empêche. Jésus dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Alors je me suis dit, en lisant les évangiles, mais qu'est-ce qu'il nous a prescrit, Jésus? Et il ne nous prescrit pas des règles de vie à suivre ou des interdits. Ce n'est pas le genre. Ou alors, quand il nous en prescrit, c'est un peu déstabilisant. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, c'est un commandement. Eh bien, vous savez, hein, si vous avez un ennemi qui vous a fait du mal et que vous ne l'aimez pas, j'ai beau dire, aimez vos ennemis. Oui, oui, d'accord, je vais l'aimer. Non, on ne va pas y arriver. Mais pourtant, c'est ça, les principes du royaume de Dieu. C'est ça que Jésus nous demande de faire et de vivre. Il ne nous demande pas de contempler des idéaux, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent en disant, ah, ce serait bien, ce serait bien, ce serait bien, ce serait bien. Il nous demande de le pratiquer. Simplement, nous savons que nous ne pourrons le pratiquer que s'il y a un don qui nous est fait de la part de Dieu, un don que l'Esprit de Dieu nous change quelque part pour que nous puissions réellement obéir à ce qu'il nous a prescrit. Alors, c'est déjà ce que j'ai essayé de faire la dernière fois quand j'ai dit le qui perd gagne de l'Évangile. Hein, celui qui sait perdre, il va gagner. Enfin, bon, je ne vais pas refaire la prédication de la dernière fois. Parce que c'est un des principes du royaume de Dieu. Pour le mettre en œuvre, le mettre en pratique, eh bien, faut compter sur le Seigneur tous les matins, sinon on ne le fera pas. Eh bien, maintenant, je vous propose un autre principe du royaume de Dieu. Il m'a été inspiré par quelqu'un, pas ici, c'est bien de fréquenter plusieurs églises, on peut parler des choses et des gens sans trahir personne, qui m'a dit « Oh, ici, il ne faut surtout pas parler d'autorité ». Vous connaissez cet esprit-là. Alors moi, ça m'a titillé, puis il dit « Ok, je ne vais pas parler d'autorité, je vais parler de soumission ». Pas beaucoup mieux, hein. Mais donc je prends, vous voyez, quand un ennemi est trop fort, il ne faut pas l'affronter en face, il faut le contourner. Enfin, c'est tout bête. Mais... Moi, j'aime bien étudier les stratégies militaires parce que ça vous enseigne beaucoup de choses pour la vie, pas pour se battre. Parce qu'on a des tas d'ennemis qui ne sont pas des gens contre qui il faut se battre, mais on a des tas d'obstacles, quoi. Alors, je contourne. Je ne vais pas vous parler d'autorité en disant « vous devez respecter les... ». Non, je vais vous parler de soumission. Pourquoi la soumission ? Parce que vous allez le voir, la soumission... C'est vraiment quelque chose qui caractérise Jésus. À un point qu'on n'imagine pas, enfin, si, on l'imagine si on connaît l'Évangile, et on va en lire plusieurs passages. Jean, chapitre 13, c'est le lavement des pieds. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous voyez le contraire de la soumission. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, car je le suis. Ça, c'est l'autorité. Vous me direz, il faut être soumis à un maître. Oui, mais je vous parle de Jésus. Je vais vous parler de la soumission de Jésus. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Se laver les pieds, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique, mais là-bas, bon, ben, c'est des pays chauds, on est en sandales. Il y a de la poussière partout. Quand on arrive, quand on rentre à la maison, on a les pieds sales. Et puis, pour honorer quelqu'un qui entre chez vous, ben, c'est les esclaves qui faisaient ça. Qu'est-ce que vous croyez ? Ce n'était pas les maîtres. Ben, on vous lave les pieds. Ça vous met à l'aise, ça rafraîchit, on est propre, on peut rentrer dans la maison. C'était vraiment respecter quelqu'un que de lui laver les pieds quand il entrait dans la maison. Eh bien, moi, dit Jésus, le Seigneur et le Maître, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lavé les pieds de ses disciples, et vous connaissez l'histoire. Pierre dit, non, 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 c'est moi qui dois te laver les pieds, toi. Il avait le respect du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit que, il dit à Pierre, il faut, si tu veux avoir une part avec moi, il faut que je te lave les pieds. Alors Pierre dit, ok, j'accepte. Vous voyez, c'est une histoire de soumission, et de soumission à la soumission. Parce que Jésus, en quelque sorte, lui qui est le maître, il fait un geste de soumission envers ses disciples. Et Pierre, qui dit non, non, ce n'est pas dans l'ordre, il faut faire le choix. Mais Jésus lui dit si, si, il faut. Alors, il se soumet aussi. Et Jésus dit, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. S'il donne un exemple, Jésus, c'est pour que nous soyons conformes à cet exemple, pour que nous obéissions à ce qu'il nous a prescrit. Alors vous direz pourquoi on ne le fait pas. Il y en a qui le font. Hein. Vous savez, on a deux rituels, on peut dire, chrétiens, typiques. C'est le baptême et la Sainte Cène. Et certains disent on aurait pu faire aussi le lavement des pieds, mais c'est juste. Parce que non seulement c'est un geste qui exprime l'Évangile, mais en plus Jésus a une parole pour dire vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns des autres, donc on pourrait obéir à cette parole, le prendre au pied de la lettre. Vous savez pourquoi on ne le fait pas? Disons dans la tradition de l'Église et même dans le Nouveau Testament, on apprend que même après Jésus, on baptisait les nouveaux convertis, qu'on prenait le repas du Seigneur, on partageait le pain, mais on ne nous parle plus jamais du lavement des pieds. Voilà. Simplement, on n'en parle qu'une fois. Mais c'est quand même une leçon, même si on ne le fait pas couramment comme un rite, c'est la leçon à reconnaître. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Voyez, le serviteur, c'est nous, le maître, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire par « vous n'êtes pas plus grand que le maître » ? Ça veut dire vous n'avez pas besoin d'être plus prétentieux que le maître. Le maître qui, lui, justement, a montré de l'humilité. On n'est pas plus grand que lui. Si lui s'est abaissé, on doit s'abaisser aussi. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Vous voyez, l'évangile, ça consiste quand même à observer ce que le Seigneur nous a prescrit. L'esprit de service, c'est un état d'esprit, l'esprit de service. Alors là, je vais lire encore des passages dans l'évangile de Luc au verset 12. 12, verset 35. Restez en tenue de travail. La vigilance. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce, dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Je m'arrête là exprès, mais ça ne se termine pas là. Jusque-là, on comprend. C'est le Seigneur le maître, c'est nous les serviteurs. Elle dit, soyez à l'affût, soyez veillants, soyez prêts, prêts à servir, prêts à faire votre service. Et puis si le maître vient, alors il est parti, il y a une noce, là, il est parti, il revient à 3h du matin ou bien à 3h30, on ne sait pas, puis on est fatigué. S'il vient et que là, on est prêt, ah voilà, on est des bons serviteurs. Mais là où ça dérape avec Jésus, ça dérape toujours, il nous donne des leçons avec toujours quelque chose d'étonnement. Il dit vraiment, je vous l'assure, c'est lui, c'est-à-dire lui le maître, qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Vous voyez la mentalité du Seigneur ? Il nous dit, bel et bien, puis nous on serait prêts à l'accepter, hein, parce qu'après tout c'est lui le Seigneur, c'est nous les serviteurs. Alors s'il nous dit, soyez prêts, soyez vigilants, soyez toujours prêts à rendre service, on dira, ben, c'est bien, c'est un bon enseignement que le Seigneur nous donne. Mais l'enseignement du Seigneur, il va plus loin. Il dit, si le Seigneur vous trouve en état de service, c'est lui qui vous fera mettre à table. Alors là, ce n'est pas normal. Parce qu'il ne faut pas oublier, on était à l'époque dans une société esclavagiste. Serviteur, ça veut dire l'esclave. L'esclave, il fait ce qu'on lui dit. Mais là, il dit, ben, le maître va dire à ses serviteurs, allez, mettez-vous à table, moi je vais mettre le tablier et je vais vous servir. Ça, c'est Jésus. Et en disant cela, il nous enseigne quel genre de serviteur il est lui-même. Vous voyez, c'est ça qui a la différence. Ce n'est pas un maître qui vient nous dire « c'est moi le maître, vous soyez serviteur ». Mais il nous enseigne à quel point lui-même, il est un serviteur. Et s'il nous dit « soyez serviteur », c'est « soyez comme moi ».« Soyez un serviteur comme moi ». Et si vous êtes, vous, des serviteurs imparfaits, qui avaient fait à peu près leur service, qui ouvrent la porte au maître quand il vient en bâillant, parce que je suis fatigué. Si vous êtes là, lui, il sera là pour vous, et il se mettra lui-même à votre service. Qu'est-ce qu'il va faire de nous, des serviteurs ? La crainte ? Oh là là, il faut redouter, hein ? Parce que s'il vient et qu'il nous trouve en train de faire n'importe quoi, il va nous taper dessus. Non, ce qu'il va faire de nous, des serviteurs, c'est cette admiration sans borne envers celui qui, lui, s'est abaissé devant nous et qui, lui, se fait notre serviteur. Pas pour le plaisir de s'humilier, mais pour nous montrer quel cœur il a et quel cœur nous devons avoir. Vous voyez, c'est le cœur du Seigneur Jésus qu'il faut partager, en fait. Ce n'est pas ses ordres, ce n'est pas ses prescriptions, ce n'est pas ses commandements, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est son être même qu'il veut nous démontrer et en nous le démontrant, nous donner le don par le Saint-Esprit de lui ressembler, d'être semblable à lui. Un autre aspect de ce service, c'est dans le même chapitre, Luc 12, verset 42. Le Seigneur répondit, « Quel est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel pour qu'il donne à chacun, au moment voulu, la ration de blé qui lui convient, qui lui revient. » Il y a différents personnages. Dans l'histoire précédente, on était serviteur, là on est gérant. C'est fréquent dans la Bible. Un gérant, c'est un serviteur, mais un serviteur supérieur. Un serviteur qui commande aux autres. Et c'est une position dans laquelle Jésus nous met souvent dans les évangiles. Parce que nous sommes gérants. Nous, il ne fait pas de nous des esclaves au sens de gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne sont pas censés le savoir de toute façon, suffit de qu'on fasse ce qu'on nous dise. Et non, non, c'est pas, on est gérant, on est responsable. On est responsable de notre propre vie, de notre famille, de notre maison, de notre église, de tous les lieux où le Seigneur nous met, on est responsable. Et il dit, le gérant fidèle, qui exerce bien sa responsabilité, heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Il y a une promesse là derrière. C'est que celui qui est fidèle dans son service, on lui donnera un service plus important. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche toujours. Dans la vie réelle, qu'est-ce qui fait qu'on monte en grade ? Alors, si on est fonctionnaire, c'est parce que c'est automatique. C'est un système. Hein. Avec l'âge, le salaire augmente, n'est-ce pas ? Je regarde ma femme parce qu'elle est fonctionnaire, alors je le sais, moi. Je sais. Il y en a plusieurs. Ça peut être parce qu'on a des relations, n'est-ce pas ? Ou bien qu'on fait allégeance avec quelqu'un. Moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise, on m'a dit il faut monter sur le bon cheval. C'est tout. Le cheval, c'est-à-dire celui qui est haut placé, le directeur. Alors, il faut s'accrocher à un cheval, et si vous remarque, eh ben, vous allez monter en grade avec lui. Si vous vous trompez de cheval et qu'il ne réussit pas, ben, vous ne réussirez pas non plus. Mais Jésus, il donne une autre méthode. Et peut-être, dans la vie réelle, c'est quelquefois le cas aussi. Moi, je crois que c'est quelquefois le cas. Celui qui est fidèle dans son service, on lui donne un service encore plus important. Moi, c'est la meilleure méthode, et je trouve que c'est souvent le cas. J'espère que dans l'Église, c'est comme ça. Celui qui arrive en disant « Moi, je veux avoir des responsabilités, je veux faire ci, je veux faire ça », je suis désolé, moi, je me méfie. Et peut-être c'est quelqu'un qui est capable de faire ceci et de faire cela. Mais quel état d'esprit ? Tandis que celui qui ne ramène pas sa fraise et qui rend des services aux autres, eh ben, moi je dis, si on est sage, c'est celui-là qu'on ira chercher en disant ben, « on aimerait que tu prennes la responsabilité de ci et de cela ». Celui qui est fidèle dans son service, eh bien, il sera si fidèle aussi dans un autre service et dans un service peut-être plus de plus d'importance. C'est le principe qui est donné, un principe du royaume de Dieu. Moi, j'appelle ça les principes du royaume de Dieu. Celui qui est fidèle dans son service, le Seigneur va le prendre et il dit, tiens, paf, je te mets dans un poste à responsabilité. Le serviteur deviendra chef. Pas comme une récompense, mais comme, je dirais, une constatation de ce qu'il est, de ce qu'est son caractère. C'est vrai que un bon chef, c'est quelqu'un qui sait obéir. Si quelqu'un n'est pas capable d'obéir aux autres, ne le mettez pas chef. Il va pas être capable de se faire obéir. Il faut montrer qu'on soit... C'est pénible hein, d'être sous-chef. Moi, j'ai été sous-chef pendant une période. Et puis après, j'ai monté en grade, je suis devenu chef, et puis j'ai eu un sous-chef. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention... Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être sous-chef. On n'est pas tout à fait chef, on commande pas, on ne dirige pas la manœuvre. C'est comme en France, le président de la République est le Premier ministre. C'est très dur d'être Premier ministre, parce qu'il doit faire le boulot, mais ce n'est pas lui le vrai chef. Il faut avoir pitié du Premier ministre. Voilà. D'ailleurs, les premiers ministres en France, ils ont toujours envie d'être président de la République après. Ce n'est pas pour rien. Ils ont envie d'être libérés d'un carcan. Mais celui qui est sous-chef, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie aussi. Moi, j'ai eu une période de chômage et après, j'ai trouvé un bon boulot. Ben, je vous assure, j'avais envie de réussir, hein, je n'avais pas envie de louper mon coup. Et puis, mon chef, il m'a câblé parce qu'on lui donnait un travail à faire et crac, il le faisait retomber sur moi. Mais c'était au point, les autres employés, ils s'en sont aperçus. Hein, mais moi, je disais quoi ? Courbe le dos et bosse. Mais je me disais ça à moi-même, parce que j'avais été chômeur, je n'avais pas envie de m'y retrouver. Hein. Courbe le dos et bosse, et c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Et puis après, ben, c'était moi le chef. Alors, il fallait que je sois sympa avec mon sous-chef. Il fallait faire attention, il ne fallait pas que je lui fasse subir les choses. Mais c'est les principes du royaume de Dieu, c'est des choses dont on doit demander au Seigneur de nous imprégner. Que la valeur du royaume de Dieu, c'est la valeur du serviteur qui est soumis aux autres. Et c'est cette valeur-là, non pas qui fait de nous des carpettes sur lesquelles les autres vont marcher, parce que si on n'a pas envie des fois d'être soumis aux autres, c'est à cause de ça, n'est-ce pas? On n'a pas envie d'être humilié. On craint d'être humilié. Et des fois, ça peut être le cas. Hein, parce qu'il y a des chefs qui ne sont pas des bons chefs et qui vont vous humilier. Mais le principe du royaume de Dieu, c'est un principe de soumission, parce qu'à l'exemple de Jésus-Christ lui-même, il nous dit, c'est ça qui va vous élever. Alors, est-ce que c'est vrai tout ça? Je vais lire, j'ai encore deux textes à lire. Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Comment allons-nous résister au diable? Comment? Le diable, c'est le mal. Le diable, c'est toutes les puissances mauvaises qui nous attaquent de l'extérieur ou bien même de l'intérieur, quelquefois. Et quelquefois, on se rend compte que c'est mauvais. On dit « Non, je ne veux pas. Moi, je veux faire le bien. Je veux être quelqu'un de bien. » Comment allons-nous combattre le mal? Eh bien, pas en faisant le malin, en disant « Je suis plus fort et je vais me battre. » En se soumettant à Dieu. Vous voyez, il y a la soumission est toujours là. C'est le fait d'être soumis à Dieu qui fait qu'on n'est pas soumis au diable, tout simplement. Qu'on est soumis à personne d'autre. Vous savez, les gens qui disent ni Dieu ni maître, moi ça me frappe comment ils se trompent, c'est incroyable. C'est parce qu'ils considèrent Dieu comme un maître, mais comme un mauvais maître, c'est-à-dire comme un oppresseur, comme un tyran. Alors on ne veut pas d'oppresseur, on ne veut pas de tyran, même pas Dieu. Et hélas, ça a sa justification, parce qu'évidemment, il y a des périodes où même l'Église s'est comportée comme un tyran. Les représentants de Dieu se sont comportés comme des tyrans. Donc on n'en veut pas. On se révolte contre le tyran. Parce qu'ils n'ont pas compris de quel genre de Dieu il s'agit. Le roi qui s'incline devant ses sujets. C'est ce genre de roi-là. Je ne sais pas, vous n'êtes pas fan du Seigneur des Anneaux. Si vous regardez les films à la fin... Il y a une scène comme ça, mais Tolkien c'était un chrétien, il n'est pas sot, parce qu'il y a eu le mal, il y a eu un combat contre le mal, et ce combat en fait il est remporté par les petits hobbits, c'est des sortes, des semi-hommes on les appelle, le petit, et puis ils arrivent à la cérémonie d'intronisation du roi, et puis tous les petits là qui sont là, ils s'inclinent devant le roi, et le roi dit, c'est pas à vous de vous incliner, et le roi s'incline devant eux. C'est une scène, il se met à genoux devant eux, devant les petits là, et tous les gens, tous les peuples, les soldats et tout ça, ils se mettent à genoux, devant tous ces petits qui sont comme ça, et qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi ils se mettent à genoux devant vous? Voilà, c'est une scène vraiment angélique celle-là, dans son état d'esprit. Vous voyez, le puissant qui s'abaisse, c'est celui-là qui est vraiment puissant en réalité, c'est la leçon de l'évangile. Vous voulez vous battre contre le diable? Faites pas les malins, soumettez-vous à Dieu. Parce qu'il y en a un que le diable ne va pas vaincre. C'est qui? C'est Dieu. Et si je suis soumis à Dieu, il ne me vaincra pas non plus, moi, mais pas à cause de ma propre force, à cause du Seigneur. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable en vertu de cette soumission et il fuira loin de vous. Il fuira loin de Dieu, bien sûr. Pas loin de moi, mais loin de Dieu à qui je me suis soumis. C'est ça la lutte spirituelle, elle ne consiste pas à bagarrer contre le diable, elle consiste à se soumettre au Seigneur. Et un dernier passage, parce que moi je trouve, non c'est l'avant-dernier en fait, il y en a une conclusion, je le trouve, je vais crescendo là, enfin crescendo dans mon, selon mon impression, dans 1 Corinthiens 15. Il y a le passage 1 Corinthiens 15, c'est le grand chapitre où il parle de la résurrection des morts. Donc de la victoire du Christ. Parce que quelle est sa plus grande victoire, sinon d'avoir vaincu même la mort, d'être ressuscité des morts. Ça, c'est une victoire. Moi, je dis, si tout se termine par la mort pour tout le monde, ça veut dire que la plus grande puissance du monde, c'est quoi? C'est la mort. Hein, vous pouvez faire ôter toutes les choses bien que vous voulez, ça se termine dans le cercueil. Sauf s'il y a une résurrection des morts. Alors là, oui, c'est pas le dernier mot. Il faut savoir qui est Dieu, qui est tout puissant. Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est le Dieu de vie? Alors il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 27, car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, sous les pieds du Seigneur. Vous voyez, je suis en train de parler de soumission. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. Vous voyez, c'est justement dans le passage où Jésus est décrit dans sa position la plus élevée d'autorité, dit « toutes les puissances lui seront soumises sous ses pieds, même la puissance de la mort », à ce moment-là, il nous est encore dit « sauf celui à qui tout est soumis ». Même quand Jésus sera le triomphant de toute puissance, le triomphant même de la mort, à ce moment-là, ce sera encore dans un esprit de soumission à son Père qu'il le sera. Moi, ça m'a frappé. Voyez où elle est, la soumission? Même quand la soumission, on dit, elle est là, sous ses pieds, sauf qu'il reste quand même quelqu'un de soumis. Ça, c'est le Christ. Alors, pour finir, et nous dans tout ça, eh bien, on va lire Éphésiens 5, verset 21, parce que pour moi, c'est l'idéal à atteindre, c'est la manière dont nous devrons obéir à ce que le Seigneur nous a prescrit, sauf qu'il ne suffit pas de le dire. Moi, je vais lire, c'est beau, hein. Parce qu'il parle de notre conduite. Hein. Je vais lire à partir du verset 17, chapitre 5, verset 17 de Éphésiens. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Moi, j'aime bien. Hein, que, vous voyez l'alternative? Dit bon, allez, soyez pas des ivrognes. Ok, je vais être quelqu'un de strict, de sobre. Non, l'alternative, c'est d'être rempli de l'esprit. C'est pas d'être quelqu'un. C'est ça qui nous montre que c'est autre chose qu'une morale. C'est une entrée dans une communion spirituelle. Ainsi, voilà, si on est rempli de l'esprit, voici quelles seront les conséquences. Vous vous encouragerez mutuellement par les chants de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur, par vos chants et par vos psaumes. La vie, le modèle de vie du Christ, ça consiste à chanter beaucoup. Je suis content, ça me convient, j'aime bien ça. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est ça que je dois faire. Je dois avoir un esprit reconnaissant. Vous voyez, ce n'est pas des préceptes, que c'est un état d'esprit d'être le savoir-être reconnaissant. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Parce qu'il l'a ordonné, parce que vous révérez le Christ. Parce que vous avez cette admiration pour le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Parce que c'est lui. Allez, il faut que je vous sois soumis. Mais pas parce que c'est vous, parce que c'est lui. Non, parce que si on est soumis les uns aux autres, on dit « Ah oui, lui ou elle, il mérite qu'on soit soumis ben, ». Des fois, c'est le cas. Ouais. Il y a des gens, ils ont des qualités. Des gens, ils ont un caractère qu'on admire. Alors, ça vaut le coup. Oui, je vais être soumis. je vais dire à cette personne-là, ça vaut le coup de lui ressembler. Cette personne-là, mais de toute façon, on fonctionne comme ça dans la vraie vie. Hein. On s'éduque en regardant les autres, en imitant les autres, ceux qui en valent la peine. Il y a une telle personne et il sait faire de la peinture mieux que moi, alors je vais suivre, je vais pas prétendre le faire à sa place. C'est déjà une manière d'être soumis les uns aux autres. Mais ça va encore plus loin. On va être soumis les uns aux autres parce que nous révérons le Christ et que lui, il est comme ça. En sorte que c'est chaque personne, quelles que soient ses qualités, la valeur que nous pouvons lui attribuer, qui sera l'objet d'un cœur de soumission. Juste après, dans Éphésiens, je ne vais pas lire, c'est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». C'est plus l'époque. Oui, mais c'est écrit juste après. Et si, quand je regarde le texte en grec, il y a des propositions principales et des propositions subordonnées, comme en français. C'est en propositions subordonnées, hein, vous savez. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, parce que vous révérez le Christ. Virgule. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. C'est écrit comme ça. En sorte que c'est aussi dans cet esprit-là, la soumission qui est demandée des femmes à leur mari comme au Seigneur. Bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Moi, je crois qu'il y a un grand défi en ce moment par les ministères. Vous savez, on est une église qui est en changement. Moi, je crois depuis longtemps que l'église qui fonctionne avec le pasteur et l'église, c'est le modèle traditionnel. Et c'est souvent ce que les gens veulent. Chaque église veut avoir son pasteur, il faut que le pasteur soit bien sûr, et puis le pasteur, il a son église. Ça marche de moins en moins, je ne vais pas vous développer maintenant toutes les raisons, mais pour moi, l'issue, c'est qu'il y ait une pluralité de ministères, qu'il y ait des ministères, et des ministères qui marchent ensemble. Vous savez quelle est la difficulté ? C'est qu'il faut qu'ils marchent ensemble. Alors s'il y a un seul pasteur, bon, il est ce qu'il est, mais enfin, comme il n'y en a qu'un, ben, il est soumis à lui-même. Ben non, il va falloir être soumis les uns aux autres. Encore, c'est cette prescription du Seigneur, que nous soyons soumis les uns aux autres, elle va s'appliquer d'abord aux pasteurs et aux dirigeants de l'Église. Vous êtes d'accord, hein ? Bon, elle s'applique à tout le monde, hein, attention. Pas seulement aux pasteurs. Mais moi, il faut commencer par qui doit donner l'exemple. Soyez soumis les uns aux autres. Après, je peux toujours vous parler d'autorité, de respecter l'autorité, tout ça. Quoi, une hiérarchie, quoi, il veut nous commander. Parce que vous révérez le Seigneur. Voilà toute la clé et le chose qu'il faut laisser. Parce que vous avez compris qui est Jésus et comment il fonctionne, ce type qui s'abaisse et qui lave les pieds de ses propres disciples, ce maître qui va rassembler ses serviteurs pour leur dire « Mettez-vous à table, c'est moi qui vous sers ». Quand nous nous sommes laissés toucher et transformer par celui-là, eh bien nous allons devenir comme lui. Seigneur, fasse qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.